France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on se rendra tout d'abord en Russie où Vladimir Poutine a fait état ce matin de sa détermination à décider seul de la destinée de son voisin ukrainien. À suivre également les tensions diplomatiques entre la France et l'État hébreu après qu'on a appris que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait refusé une demande d'Emmanuel Macron de se rendre à Jérusalem, posant comme condition préalable que Paris renonce à son intention de reconnaître un État palestinien. On parlera aussi gaspillage de médicaments en France ou comment mieux rationaliser les prescriptions médicales. Et puis en plein débat sur les restrictions budgétaires, on tâchera de comprendre comment le crédit agricole a pu faire perdre au fisc près de 33 milliards d'euros en 20 ans. L'Europe, en tant que berceau de la démocratie libérale, peut-elle encore faire figure de modèle? En d'autres termes, jusqu'à quel point le vieux continent est-il en mesure aujourd'hui de tenir sa place dans le nouvel ordre mondial? Hier, la coalition dite des volontaires alliés de Kiev, soucieuse de serrer les rangs pour peser dans les discussions, s'est engagée à soutenir militairement l'Ukraine au sol, en mer ou dans les airs en cas de cessation des hostilités. En revanche, les Européens restent pour l'heure suspendus aux lèvres de Donald Trump, le chef de la plus grande puissance mondiale qui rechigne toujours à s'engager sur la contribution de son pays. Puis surtout, Vladimir Poutine, lui, n'a pas tardé à réagir. N'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une cible légitime pour l'armée russe, a prévenu ce matin le maître du Kremlin. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant Transculture à Moscou. Alors, précisons que les garanties de sécurité apportées par les Européens visent uniquement à dissuader la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine dans le cadre d'un hypothétique cessez-le-feu. En clair, une fois la guerre terminée, mais c'est encore trop donc aux yeux de Moscou qui ce matin, Sylvain, a aussitôt mis son veto.
Oui, en deux phrases, Vladimir Poutine a écarté tout espoir de règlement pacifique de la guerre en Ukraine à court-moyen terme en posant des conditions dont il sait pertinemment qu'elles sont inacceptables pour Kiev. Tout d'abord, il ne veut pas entendre parler de forces étrangères en Ukraine dans le cadre des garanties de sécurité. S'il y a des troupes là-bas, nous partons du fait que ce seront des cibles légitimes, a-t-il dit. Ce n'est pas la première fois qu'on prononce ces mots au Kremlin, mais le timing les rend d'autant plus définitifs. La logique du président russe, c'est qu'on ne peut pas accorder de garantie à l'Ukraine sans en accorder à la Russie. Or, pour lui, la présence de troupes occidentales en Ukraine est une menace, quand bien même serait-elle là pour garantir un accord de paix. Je n'en vois pas l'utilité, a martelé Vladimir Poutine. Et puis, le chef du Kremlin a de fait écarté aussi tout espoir de rencontre avec Volodymyr Zelensky, en martelant là encore qu'il voulait bien le voir, mais seulement s'il vient à Moscou, une exigence qu'il sait inacceptable pour le président ukrainien, quand bien même, assure le chef du Kremlin, sa sécurité sera garantie à 100%.
Merci Sylvain Tronchet à Moscou. La Russie est devenue cette année le premier pays à avoir officiellement reconnu le gouvernement des talibans, annoncé ce matin avoir dépêché en Afghanistan un avion transportant de l'aide humanitaire en attendant l'espoir de trouver des survivants du pire séisme de l'histoire récente du pays. Ça menuise chaque jour un peu plus. Les secours peinent encore à parvenir jusqu'aux rescapés désormais sans abri dans l'Est, dévasté où les glissements de terrain rendent d'autant plus difficile l'accès à certains villages reculés, accrochés à plan de montagne. La nuit dernière, 5 nouvelles répliques ont à nouveau réveillé le traumatisme des familles en deuil plongées dans l'horreur. Le dernier bilan fait état de plus de 2200 morts et 4000 blessés. Puis à cela s'ajoute encore le désespoir et la peur pour des milliers d'Afghans installés, eux, au Pakistan voisin, parfois depuis des générations, et aujourd'hui expulsés par Islamabad, contraints de rentrer chez eux malgré la catastrophe.
Sauf qu'il peut en Thaïlande.
Ce matin, l'ex-premier ministre et homme d'affaires Thaksin Shinawatra a quitté le pays à bord d'un jet privé, et ce quelques heures seulement avant un vote au Parlement pour désigner le nouveau chef du gouvernement, un milliardaire ancien allié de la dynastie au pouvoir durant des décennies.
Plus populaire que jamais, le parti britannique anti-immigration Reform UK ouvre à partir d'aujourd'hui son congrès annuel dans une ambiance qui s'annonce festive.
Et pour cause, voilà des mois maintenant que la formation est en tête des intentions de vote dans les sondages. Alors certes, les prochaines législatives ne sont pas prévues avant 2029, mais déjà les partisans de l'ex-champion du Brexit, Nigel Farage, sont de plus en plus convaincus qu'il pourrait devenir le prochain Premier ministre, qui plus est dans un contexte plus général de montée des extrêmes droites partout en Europe. Alors il est juste justement un événement qui permet de s'interroger sur cette hystérie anti-immigrée qui fait aujourd'hui le fond de commerce du national-populisme dans les démocraties occidentales. Il y a 10 ans, jour pour jour, l'Allemagne ouvrait ses frontières à des dizaines de milliers de réfugiés syriens fuyant la guerre civile décidée chez le bourreau de Damas, Bachar el-Assad, et à ceux qui s'inquiétaient de leur intégration, la chancelière, l'époque Angela Merkel, avait répondu « Nous y arriverons ». Trois mots qui avaient suscité leur lot tant de louanges que de critiques. Alors 10 ans plus tard, l'Allemagne y est-elle vraiment arrivée? Le bilan est plutôt contrasté, voire sévère. La défiance envers les réfugiés n'a même jamais été aussi forte, en témoigne la montée du parti AfD, mais pas seulement, puisqu'en rétablissant des contrôles à ses frontières, l'Allemagne a fini par céder à ses réflexes nationalistes. Et d'ailleurs, Fabien Cazot, elle ne fait pas exception en la matière.
Jusqu'au sein même de l'espace Schengen, censé pourtant être le projet européen le plus abouti en matière de libre circulation, des contrôles aux frontières ont été réintroduits depuis l'année dernière en Allemagne, frontalière de 8 autres États membres de l'Union européenne, mais aussi en France, en Autriche, aux Pays-Bas. En Belgique, depuis cet été, nous ne tolérons plus que la Belgique soit un aimant pour ceux qui sont rejetés ailleurs, estimait en juin la ministre chargée de l'asile et de la migration, symptôme d'un raidissement qui gagne maintenant l'ensemble de l'Union européenne. L'Italie, qui a porté au pouvoir la droite nationaliste de Giorgia Meloni il y a 3 ans, en a inventé des centres de rétention à l'étranger. Elle en a ouvert un, présenté comme un projet pilote en Albanie l'année dernière, quand d'autres pays ont choisi tout simplement de hisser des barbelés le long de leurs frontières, comme la Hongrie de Viktor Orban qui les a maintenus alors que les flux migratoires se sont taris depuis 2015 en provenance des Balkans.
Emmanuel Macron, persona non grata en Israël.
Après qu'une rumeur cette semaine laissait entendre que Benjamin Netanyahu avait lui-même rejeté une demande du président français de se rendre en visite dans l'État hébreu, l'information a fini par être confirmée hier selon un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères. Tant que Paris ne reviendra pas sur sa décision de reconnaître un État palestinien, eh bien une telle visite n'aura pas lieu d'être. Les précisions depuis Jérusalem de notre correspondant Thibault Lefebvre.
Et le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé l'information selon la chaîne publique israélienne Kan. Les autorités de l'État hébreu sont très remontées contre la France et elles ne comptent pas en rester là. Je me suis entretenu hier après-midi avec la vice-ministre des Affaires étrangères. Elle s'appelle Sharen Haskel.
Tu dois choisir où que tu es avec Israël ou que tu es avec Hamas. Ce que Macron fait, c'est détruire des années de diplomatie entre Israël et la France.
Vous allez le fermer, le consulat de France, à Jérusalem ?
C'est sur la table du Premier ministre et je peux te dire que moi, j'espère que oui.
Vous ne l'avez pas fait avec l'Espagne ?
On l'avait fait avec la Norvège. L'Espagne n'a pas pris ce pas que Macron a fait maintenant, à essayer de pousser tous les États de faire cette action.
La discussion a continué hors micro avec des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. L'État hébreu pourrait s'attaquer aux propriétés de la France en Israël et dans les territoires annexés. Dans le viseur, 4 lieux, dont le tombeau des rois situé à Jérusalem-Est et que les juifs ultra-orthodoxes considèrent comme un lieu de culte.
Midi passé de 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est le plus gros événement caritatif en ligne en France et il s'ouvrira ce soir à Montpellier en même temps que sur la plateforme Twitch. Son nom, The Event. À partir de 18h jusqu'à dimanche soir, les participants se relaieront pendant plus de 50 heures pour diffuser du contenu en direct, s'adonnant à des jeux et autres animations pour encourager les spectateurs à faire des dons au profit d'associations œuvrant pour les patients et les aidants. Et pour parler avec nous de la 9e édition donc de ce marathon, invité de la rédaction à présent, Nathan Ferret, maître de conférence en sociologie à l'ENS de Lyon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez consacré donc un article au The Event intitulé « La fête en régime numérique » et dans cette observation anthropologique de l'événement caritatif, vous détaillez notamment les implications sociologiques de cette forme de fête en contexte numérique. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément familiers de cet événement, est-ce que vous pouvez, peut-être pour commencer déjà, nous décrire rapidement le dispositif ?
Oui, bien sûr. Donc le The Event, on peut le décrire comme une sorte de téléthon du streaming. Le streaming étant une pratique par laquelle des vidéastes, qu'on va appeler des streamers ou des streameuses, vont se filmer eux-mêmes en direct en train de réaliser diverses activités pour leur audience, qu'on va appeler les viewers. Et en fait, ce The Event, il va se donner comme une intensification de la vie sociale de la plateforme, le temps d'un week-end où des dizaines de streamers parmi les plus connus se rassemblent dans un même lieu physique pour diffuser ensemble et récolter des dons pour une association ou plusieurs associations. Alors, et en tant que tel, voilà, cet événement il va réaliser plusieurs ruptures par rapport à l'ordinaire de la plateforme.
Selon vous, justement, cet événement, je reprends vos propres mots, hein, subvertirait les rapports numériques ordinaires. Qu'est-ce que cela signifie ?
En effet, habituellement, déjà, chaque streamer stream seul depuis chez soi. Et ici, on a un rassemblement collectif des streamers, mais aussi de leurs viewers respectifs, qui forment habituellement des communautés qui se mélangent peu sur la plateforme. Et ici, ce rassemblement donc de viewers qui où il y a des pics d'audience à plusieurs centaines de milliers quand même. Hein. Par exemple, 455 000 viewers en 2021. Ce rassemblement à la fois des streamers et des viewers entre eux, il va produire de l'effervescence collective et des formes de transgression propres à une fête. La durée de l'événement, l'ivresse de la fatigue qu'il produit, la nécessité aussi de faire de l'événement, quoi, de tromper l'ennui qui peut s'installer, etc. Plus toute la désinhibition issue du compteur de dons qui va s'emballer et qui va générer aussi des réactions émotionnelles très fortes chez les streamers. Tout ceci va produire des débordements. Hein. Les streamers vont crier, vont chanter, etc. Toute cette effervescence, elle va également renverser certaines représentations associées au streaming, où le streaming, ça va être souvent présenté comme étant un médium pour des jeunes reclus dans leur chambre et fondamentalement inutile socialement. Ici, le Z-Event, il va renverser ces représentations et va produire aussi une légitimation du médium et de ses acteurs.
Récemment, c'était le 18 août dernier, la mort en direct d'un streamer, justement, hein, Jean Pormanov a fait apparaître au grand jour les dynamiques violentes favorisées par une plateforme concurrente à Twitch, Kick, qui a fait de l'absence de modération son principal argument marketing. Trois semaines plus tard, est-ce que ce drame a eu une quelconque répercussion dans le secteur du live stream ou bien est-ce que son retentissement s'est surtout joué dans le débat public ?
Oui, je dirais qu'il y a eu un retentissement vraiment limité dans le milieu du live streaming à ce stade. Hein. L'événement a surtout suscité des réactions d'indignation et des critiques sur Twitch, mais relativement semblable aux critiques qu'on pouvait entendre ailleurs. Il reste aussi souvent cadré comme un fait divers, et il vient surtout davantage marquer la différence entre Twitch et Kick, à l'avantage de Twitch, qui en ressort conforté dans sa position de leader et de respectabilité. Mais au-delà de ça, non, il n'y a pas eu de vrai retentissement structurel de l'affaire à ce stade.
Cette affaire n'est pas venue mettre en crise certains aspects du modèle économique sur lequel sont fondées ces plateformes.
Pas vraiment. Je dirais que, en fait, le modèle a moins été mis en crise qu'il n'a été révélé dans toute sa diversité et la force sociale du don en ligne sur lequel reposent donc ces plateformes, puisque le don peut recouvrir des pratiques et des constructions collectives extrêmement diverses. Le don en streaming, ça peut à la fois financer des associations dans le cadre du Z-Event jusqu'à venir participer d'une ritualisation de la violence validiste sur Kick. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas énormément de rapport en fait entre ce qui se passait sur une chaîne comme celle de Jean Pormanov et ce qui se passe sur Twitch, sur les chaînes de Twitch. Quoi. Donc,
c'est bien noté.
Le parallèle est difficile à faire.
Merci Nathan Ferret, maître de conférence en sociologie à l'ENS de Lyon, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Loïs Guérin pour la préparation. Avant probablement de devoir rendre les clés de l'hôtel Matignon, François Bayrou serait-il tenté par un ultime passage en force ? Non, assure ce matin le Premier ministre. Est-ce que sans même attendre l'issue donc du vote de confiance à l'Assemblée lundi, et malgré par ailleurs l'avis défavorable rendu par le Conseil de l'assurance maladie, son gouvernement a bel et bien présenté trois projets de décret visant à doubler le plafond des franchises médicales, comprenez le reste à charge pour les patients, ce que le syndicat MG France, syndicat majoritaire des médecins généralistes libéraux, résume par un nouvel impôt sur les plus pauvres et les plus malades.
De son côté, la Cour des comptes estime que la France doit mieux rationaliser ses prescriptions médicales.
Oui, les remboursements de produits de santé par la Sécurité sociale continuent d'augmenter 3% en moyenne chaque année. Ils s'élèvent à 36 milliards d'euros en 2023. Or, dans un rapport sur le bon usage de ces produits de santé, eh bien, la Cour pointe notamment un problème de gaspillage de médicaments. Anne Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Selon ce rapport, c'est l'équivalent d'1 milliard d'euros de médicaments qui partiraient donc à la poubelle chaque année en France.
Oui, on parle ici de traitements délivrés dans les pharmacies en ville et qui finissent par être jetés, périmés ou non. La France possède très peu de chiffres sur ces médicaments non utilisés, mais sur la base de données de l'éco-organisme Cyclamed, la Cour des comptes estime que la valeur de ces médicaments jetés à la poubelle varie entre 560 millions d'euros et 1,7 milliard d'euros, selon que l'on inclut ou pas les médicaments les plus chers, ceux de dernière génération ou des anticancéreux, par exemple.
Et que propose la Cour des comptes pour obtenir donc un meilleur usage des produits de santé ?
Alors pour soigner tout aussi bien tout en dépensant moins, il faudrait, selon la Cour des comptes, poursuivre la mise en place de dispositifs d'accompagnement de la prescription pour les médicaments qui présentent un risque de mésusage. Il faudrait aussi que les industriels fassent un effort pour pousser encore les dates de péremption des traitements le plus loin possible et qu'ils limitent davantage le nombre de comprimés dans les boîtes. Ces efforts pourraient d'ailleurs peser dans les négociations sur la tarification des produits, estime la Cour des comptes. Enfin, le rapport suggère de mieux recycler ou réemployer les produits de santé, les béquilles ou fauteuils roulants par exemple, mais aussi les traitements quand ils sont coûteux. Quand un patient ne consomme pas la totalité de ses médicaments, au lieu de les détruire, il faudrait qu'un autre malade puisse en bénéficier quand cela s'y prête, car certains traitements coûtent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et une expérimentation réussie de redispensation des produits anticancéreux aux Pays-Bas a notamment déjà fait ses preuves.
Merci Anne Le Gall. Avantages sociaux qui s'étiolent, mais aussi déni de démocratie pour tous ces mots d'ordre réunis sous la bannière Bloquons tout. Vous le savez, des actions se préparent pour le 10 septembre partout en France, le tout sur fond de rejet des classes dirigeantes attisées par les annonces budgétaires. Hier, le ministre de l'Intérieur, le très droitier Bruno Retailleau, a donné ses ordres au préfet. Toute tentative de blocage des infrastructures essentielles à la vie de la nation devrait être entravée. Gare, port, aéroport, dépôt pétrolier, plateforme logistique, centrale électrique, les forces de l'ordre devront intervenir sur tous les fronts. Et c'est encore dans ce contexte troublé de recherche, d'économie, à tout craint, que l'on apprend que le Crédit Agricole sera lui convoqué lundi prochain au tribunal judiciaire de Paris pour une affaire de fraude fiscale. Anne-Laure Barral, bonjour.
Bonjour.
De la cellule investigation de Radio France. On parle là de montage financier qui aurait fait perdre au fisc près de 33 milliards d'euros en 20 ans. Cette fraude a même un nom, alors les Koum-koum, de quoi s'agit-il ?
Alors Thomas, vous êtes latiniste, vous savez que koum ça veut dire avec, donc koum-koum avec, ou plutôt gagnant-gagnant. C'est surtout un jeu de passe-passe où tout le monde gagne, sauf le fisc. En fait, il s'agit de faire changer de main des actifs financiers juste avant le versement des dividendes pour mieux les faire revenir ensuite. Comme ça, certains actionnaires étrangers ne payent pas de taxes au fisc français, ils récupèrent donc plus d'argent et au passage la banque leur prend une petite commission. En 2018, un consortium de journalistes européens avec nos confrères du Monde avait révélé la subtilité de ces montages qui passent aussi parfois par des pays comme le Qatar ou la Finlande où d'avantageuses conventions fiscales avec la France permettent aux résidents effectivement de ne payer aucune taxe sur les dividendes des entreprises françaises. Depuis, le législateur a tenté plusieurs fois de mettre fin à ces montages financiers que beaucoup qualifient de frauduleux.
Et de fait, Anne-Laure, sont-ils véritablement frauduleux ?
Alors, la Fédération bancaire française explique que non, qu'il s'agit de procédures tout à fait légales qui visent à financer l'économie réelle et pas à contourner le fisc, ce qui serait un abus de droit. Il faut dire que 5 autres banques françaises, la Société Générale, BNP Paribas, sa filiale Exane, Natixis et HSBC, sont aussi sous le coup d'enquêtes pénales pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. Sauf qu'on a du mal à comprendre pourquoi il y a des pics de transactions juste avant les versements de dividendes, pourquoi plusieurs banques sont aussi poursuivies chez nos voisins européens pour des affaires similaires, voire plus graves. Le Crédit Agricole est donc le premier établissement bancaire français à être convoqué devant la justice en vue d'une convention judiciaire d'intérêt public ce lundi, une sorte de transaction financière avec l'État qui permet d'éviter un lourd procès. Il faut savoir que le Crédit Agricole est aussi une des rares banques à avoir accepté un accord avec le fisc de 35 millions d'euros dans le cadre de procédures de redressement fiscal, cette fois. Et cet été, Éric Lombard, le ministre de l'économie, avait rappelé que ses services à Bercy avaient déjà notifié pour 4,5 milliards d'euros de redressement aux banques à propos des koum-koum.
Et Mercum, Anne-Laure Barral. Je ne sais pas si on dit comme ça en latin.
Je ne suis pas sûr.
Non, pas sûr. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec encore des nuages assez nombreux sur la moitié nord. En revanche, le soleil brillera généreusement au sud. Quant aux températures, on les afficheront entre 18 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Julie Paco pour le prochain journal de la rédaction.